Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le soulagement et les questions nombreuses en Mayenne. L'adolescente de 17 ans disparue lundi soir est saine et sauve. Mais on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Dans ce journal également, l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Discours de président ou de candidat. Et puis Karim Benzema restera chez les Bleus, quel que soit le jugement dans l'affaire de la sextape. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Noël Le Graët.
Nos deux débats du jour à partir de 12h40. Retour sur l'intervention d'Emmanuel Macron avec le chef de l'État qui veut renforcer le contrôle des chômeurs. Mais est-ce vraiment possible? Et puis à 12h50, on répondra à toutes les questions qui se posent sur le front sanitaire. Troisième dose, passe sanitaire. Qui est concerné? À partir de quand? Sophie Orange nous dira tout.
Notre question du jour sur RTL.fr, justement, troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans, allez-vous la faire? Eh bien, vous dites oui à 63%. Notre météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
La Corse est ce midi en alerte orange.
Et oui, pour pluie, inondation, des pluies soutenues et orageuses, on pourra atteindre l'équivalent d'un mois de pluie, donc prudence. Ces pluies débordent sur le pourtour méditerranéen, plus au nord, vers le massif central, c'est un ciel voilé. Plus lumineux en allant vers le nord-est, c'est très beau ailleurs, mais ça reste couvert sur les bords de Manche. Tout ça sous des températures un peu fraîches au nord, mais douces au sud, de 8 à Reims à 20 à Nice, 9 à Paris, 14 à Bordeaux et Brest.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, donc, le soulagement à Sablé-sur-Sarthe. C'est là qu'a été retrouvée hier soir l'adolescente de 17 ans qui avait disparu lundi alors qu'elle était partie faire son jogging. Elle s'est présentée elle-même dans un snack avant d'être prise en charge par des médecins. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL et vous avez notamment rencontré la plus proche voisine de la famille de la jeune fille.
Oui, émue aux larmes en apprenant que la jeune fille qu'elle a vue grandir, qu'elle voyait partir courir toutes les semaines, avait enfin été retrouvée.
J'avais du mal à y croire parce que je n'y croyais pas trop, moi. J'avais un peu peur. Ah oui, soulagée parce que j'avais vraiment très peur. Oui, oui, c'est une très bonne nouvelle. Oh, je ne saurais pas vous dire ce que ça me fait. Tellement je suis heureuse, hyper contente.
Et devant le lycée où est scolarisée l'adolescente, les sourires regagnent peu à peu les visages. La petite tête blonde d'Audrey, une amie.
Soulagement, vraiment un soulagement. Et surtout de savoir qu'elle puisse retrouver sa famille, ses amis et qu'elle puisse reprendre une vie normale. Après, j'espère que quelque chose va être prévu pour elle. Le soutien de tous et même les personnes qui la connaissent pas ou pas du tout, je trouve que c'est important pour elle que tout le monde lui montre son soutien en fait.
Une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place, un temps de parole avec les professeurs, mais le soulagement n'efface pas l'incompréhension. Tous se posent ici la même question: qu'a-t-il bien pu arriver à cette jeune fille pendant plus de 28 heures.
Vincent Serrano à Sablé-sur-Sarthe pour RTL. Et effectivement, c'est la grande question hein, ce midi. Que s'est-il passé entre lundi soir et la disparition et hier soir? Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Pour l'instant, pas de réponse claire.
En effet, aucune certitude hein, ce midi. D'après nos informations, la jeune fille a affirmé dans un premier temps avoir échappé à deux ravisseurs. Mais on nous invite à la plus grande prudence sur ces déclarations car elles ont été faites quelques minutes seulement après la prise en charge de la joggeuse disparue par les pompiers et les gendarmes. Elle était en état de choc d'après les témoins et surtout il ne s'agissait pas d'une audition dans les formes hein, par les enquêteurs. Depuis, la jeune fille a été prise en charge dans un hôpital et elle a pu être entendue une première fois. Mais on ne sait pas encore si elle a pu circonstancier son récit, si elle a pu donner plus de détails sur l'enlèvement dont elle dit avoir été victime. En parallèle, tous les éléments matériels recueillis sont en cours d'analyse au pôle judiciaire de la gendarmerie, c'est à Pontoise, téléphone, montre connectée et écouteurs de la jeune femme notamment, mais aussi les vidéosurveillances, notamment à Sablé-sur-Sarthe où elle a été retrouvée, et le bornage téléphonique. L'homme, arrêté lundi soir pour des vérifications, a pour sa part été remis en liberté. Plus de 100 gendarmes restent mobilisés pour la suite des investigations.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
Dans l'actualité également, cette allocution hier d'Emmanuel Macron.
Un discours de candidat pour une grande partie de l'opposition, un candidat qui avance masqué, disait d'ailleurs ce matin sur RTL Xavier Bertrand.
Ça trompe personne. On est à la fin de son quinquennat. On est à quelques mois de l'élection présidentielle et maintenant il va faire tout ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans, soyons sérieux. Ça ne trompe personne. Vous savez, son quinquennat s'est arrêté en décembre 2018 avec la crise des Gilets jaunes. Il est comme il est, mais il ne comprend pas les Français et il ne comprend pas la France. Alors comment voulez-vous qu'il puisse résoudre demain les défis de notre pays, les défis des Français ?
Xavier Bertrand qui brigue, lui, l'investiture LR. Il était ce matin l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée où se tenait ce matin, comme chaque mercredi, le Conseil des ministres. Alors c'était quoi hier soir, le dernier discours du président ou le premier du candidat ?
Eh ben, un tiers de sanitaire et deux tiers de l'allocution consacrée à l'éloge du bilan et aux années à venir. Pas de doute, Emmanuel Macron se projette bien au-delà de 2022. Pour l'anecdote, un conseiller du gouvernement a même cru que le président allait annoncer sa candidature hier soir. Et c'est vrai que le chef de l'État n'a oublié aucun sujet. Retraite, économie, sécurité, nucléaire, santé, justice. C'était presque un programme présidentiel, s'amuse un député de la majorité. Alors, à l'Élysée, on se félicite des audiences d'abord, près de 21 millions de téléspectateurs et des prises de rendez-vous vaccination sur Doctolib dans la foulée. Mais au palais, on fait mine de s'étonner aussi des critiques sur ce président candidat. Le grand débat, le Tour de France, la rentrée, quoi qu'il fasse, on l'accuse d'être en campagne, réplique un proche. En fait, ce qui met tout le monde d'accord, c'est la longueur de l'intervention présidentielle, 27 minutes, et candidat ou pas, tous s'accordent à dire qu'Emmanuel Macron aurait dû faire plus court et plus clair.
Vincent Derosier en direct de l'Élysée pour RTL. Voilà un sujet, en tout cas c'est sûr, qui sera au cœur de la campagne électorale, les prix de l'énergie. La France Insoumise a déposé une proposition de loi pour garantir le maintien de l'électricité et du gaz pour tous ceux qui n'ont plus les moyens de payer les factures. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
La proposition qu'on fait, c'est l'interdiction absolue des coupures. Il y a des diminutions de puissance qui sont infligées par les opérateurs, de sorte que les gens n'arrivent plus à avoir deux appareils électriques qui fonctionnent en même temps. Et puis une première tranche de kilowattheure, qui est une tranche gratuite qui correspond aux usages de base. Alors on peut dire, ça va coûter des sous, oui, mais ça fait moins de gens malades, moins de gens malheureux. Donc on voit que l'avantage social de cette dépense, il est considérable.
Jean-Luc Mélenchon, micro-RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Proposition de loi déposée alors que la Fondation Abbé Pierre lance aujourd'hui la première journée contre la précarité énergétique. Selon elle, 12 millions de Français sont concernés, un ménage sur 5. En Auvergne, l'association Compagnons Bâtisseurs leur vient en aide pour les aider à rénover leur habitat. Illustration à voir avec vous, Guillaume Frixon.
Propriétaire depuis un an de sa maison, Claire Dumas, agricultrice, s'est très vite aperçue que dans l'état, sa demeure était presque impossible à chauffer.
Tout était à refaire, les fenêtres étaient en simple vitrage, c'était ce qu'ils appellent aujourd'hui une passoire thermique.
Et ce cas est loin d'être isolé, comme l'explique Maël Berger, directeur des Compagnons Bâtisseurs d'Auvergne.
On est sur des territoires de moyenne montagne, donc on va cumuler une géographie qui pénalise finalement les consommations énergétiques et de l'habitat plutôt ancien et quelquefois vétuste.
Alors chez Claire, le chantier a pu débuter grâce au soutien des Compagnons Bâtisseurs.
Oh, c'est génial en termes de suivi, d'écoute. Le premier compagnon qui est venu m'a dit « Moi, madame, j'ai rien à vous vendre, mis à part du conseil. »
Isolation des combles et des murs extérieurs, Claire peut aussi compter sur l'aide d'habitants de son village.
Si certaines choses relativement simples peuvent être faites par le propriétaire lui-même et les gens du village qui peuvent aider, eh bien ça simplifie la chose pour tout le monde.
Parce qu'en situation de précarité, les personnes aidées par les Compagnons Bâtisseurs ne paient en moyenne que 10% du prix du chantier.
Un reportage signé Guillaume Frixon en Auvergne pour RTL.
Tout à fait autre chose à Lyon. Deux nouveaux membres de ce qu'on appelle le gang des Dalton interpellés.
Deux hommes soupçonnés d'avoir escaladé dimanche dernier le grillage de la prison de Corba, Frédéric Perruche.
Oui, le jeune homme qui a escaladé ce fameux grillage de plusieurs mètres de haut et qui a jeté un colis à destination de Manigété, le chef des Dalton, emprisonné pour 9 mois depuis l'été, a bien été interpellé. Selon nos informations, c'était la cible prioritaire des forces de l'ordre. Les gendarmes l'ont cueilli chez lui dans le 8e arrondissement, quartier Mermoz, le fief de la bande. L'autre comparse, celui qui filmait ou accompagnait le petit groupe à moto, est lui aussi en garde à vue. Les gendarmes seraient remontés à eux grâce aux vêtements rayés jaune et noir laissés sur le grillage comme une signature. L'ADN a sans doute parlé, couplé avec la téléphonie. L'auteur principal des faits pourrait être présenté au tribunal dès vendredi pour une comparution immédiate. Il encourt 1 an de prison et 15 000 euros d'amende au minimum pour plusieurs délits. Le parquet en décidera en fin de garde à vue dans 2 jours au plus tard.
Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Au procès des attentats du 13 novembre, un ancien président sera à la barre cet après-midi. Cet ancien président, c'est François Hollande, entendu comme témoin cité par les associations de partis civils. Le foot. écoute et voilà une phrase qui va sans doute faire réagir. Dans une interview au journal Le Parisien, Noël Le Graët assure que Karim Benzema restera en équipe de France et ce quel que soit le jugement dans l'affaire de la sextape. Il ne sera pas exclu hein, par rapport à une éventuelle sanction judiciaire, dit-il, le même Noël Le Graët qui disait ceci en 2015.
C'est uniquement une décision du président de la Fédération française de football. J'ai informé Didier Deschamps. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Et jusqu'à nouvelle instruction, nouveau dossier en faveur de Benzema, il n'est plus sélectionnable en équipe de France.
N'est plus sélectionnable en équipe de France, disait donc Noël Le Graët à propos de Karim Benzema en 2015. Bonjour Nicolas Georgeau.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a changé ?
Ben, six années d'une affaire interminable aux yeux de la Fédération. Noël Le Graët affiche un soutien à l'attaquant du Real Madrid. En 2015, devant l'ampleur médiatique, notamment du dossier, le président de la Fédération voulait couper court à un feuilleton qui aurait pu déstabiliser les Bleus à 6 mois de l'Euro organisé en France. Les propos que l'on vient d'entendre datent de décembre 2015. Benzema, à ce moment-là, était sous contrôle judiciaire et mise en examen. Alors le calendrier désormais, Benzema qui a marqué 6 buts en 11 matchs depuis son retour en équipe de France saura dans 15 jours s'il est condamné ou non. Le prochain rassemblement des Bleus là, ensuite n'interviendra que fin mars. En cas de condamnation, les conseils de l'ancien Lyonnais feront probablement appel et les déclarations de Noël Le Graët ont cet objectif, amener une tranquillité, une sérénité même à Deschamps et Benzema en amont du Mondial 2022 au Qatar qui débute dans un an.
Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Georgerot, les Bleus, on le rappelle, jouent samedi au Parc des Princes, match face au Kazakhstan pour valider officiellement leur ticket pour la Coupe du Monde.
Au Parc des Princes,
oui,
ça va être formidable. Retour
j'ai cru
au
que j'avais
parc.
Dit une bêtise.
Non, retour au Parc. Et je garde Nicolas Georgerot avec les auditeurs tout à l'heure. Dans une seconde, l'intervention d'Emmanuel Macron hier, le chef de l'État veut renforcer le contrôle des chômeurs. Est-ce possible? À tout de suite.
RTL Midi. Ils sont là. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues.
Suspendre les allocations des chômeurs qui ne cherchent pas vraiment d'emploi, voilà l'un des temps forts de l'allocution hier d'Emmanuel Macron. Mais est-ce vraiment possible et est-ce la solution? C'est le premier débat d'RTL Midi avec nous, Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Et Hélène Ibanez, vous êtes secrétaire générale de la Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi. Bonjour et merci d'être en direct avec nous. Anaïs,
bonjour.
D'abord un mot, cette suspension des allocations pour les chômeurs qui ne chercheraient pas d'emploi, ce n'est ni une nouveauté ni une annonce. Hein.
Non, le principe est déjà inscrit dans la loi. Hein. Parmi les motifs entraînant radiation et suspension de l'allocation chômage, vous avez bien, je cite le texte, l'insuffisance d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Vous devez également vous actualiser tous les mois, vous présenter à tous vos rendez-vous, accepter ce qu'on appelle des offres raisonnables d'emploi, c'est-à-dire des offres qui correspondent à vos critères de recherche. Si vous manquez à vos obligations, vous êtes sanctionné. Alors, il y a tout un barème hein, en fonction des fautes. Mais pour quelqu'un qui ne cherche pas de travail, par exemple, la première fois, vous êtes radié un mois suspendu d'allocation. La deuxième fois, c'est 2 mois. Et au troisième coup, c'est 4 mois. Donc, vous voyez, sur le fond, ces sanctions existent déjà. En revanche, ce qui est nouveau, c'est le nombre de contrôles aléatoires qui vont être effectués. Il y en aura un peu plus sur les 6 premiers mois de 2022. Écoutez ce que disait Elisabeth Borne ce matin sur RTL.
En 2019, Pôle emploi a fait de l'ordre de 400 000 contrôles et dans les 6 prochains mois, ils vont faire 250 000 contrôles, donc une augmentation de 25%. Et puis spécifiquement sur les secteurs en tension, toutes ces entreprises qui n'arrivent pas à recruter.
Hélène Ibanez, vous venez d'entendre les objectifs fixés ce matin sur RTL par la ministre. Est-ce que ça vous semble possible, réaliste ?
Déjà, pour pouvoir augmenter le nombre de contrôles, ça pose la question effectivement du nombre de conseillers qui sont actuellement chargés de ce service. Aujourd'hui, on est à peu près sur 1000 conseillers qui travaillent au contrôle de la recherche d'emploi. Et en tout état de cause, même le fait d'augmenter les contrôles, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les contrôles majoritairement ne mènent pas à des radiations pour insuffisance de recherche d'emploi. On est sur une partie minime, en fait, des demandeurs d'emploi qui, dans le cadre de ces contrôles, sont radiés. Le plus souvent, ça va permettre de détecter des demandeurs d'emploi qui sont peut-être un peu décrocheurs ou qui ont besoin d'être redynamisés. Ça permet de renforcer l'accompagnement et on est vraiment dans cette posture-là.
Donc, on a une idée justement du nombre de chômeurs qui ne cherchent pas et donc qui frauderaient ?
Alors, le nombre de fraudes, de toute façon, il est stable et c'est extrêmement minime. En termes de pourcentage, c'est 0,5% des allocations qui sont versées qui correspondraient à de la fraude en termes de montant. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, le nombre des radiations, le pourcentage des radiations qui se font pour insuffisance de recherche d'emploi, c'est de l'ordre de moins de 3%. Donc moins de 3% des gens qui sont désinscrits de Pôle emploi.
Alors pourquoi cette annonce ? Est-ce qu'Emmanuel Macron fait de la politique ? Est-ce que c'est un signe qu'il lance, pourquoi pas, un public de droite ?
Alors c'est effectivement pour nous vraiment un effet d'annonce. On est dans un discours qui est extrêmement démagogique, où finalement on parle de ce qui existe déjà, hein, c'est-à-dire que l'obligation pour les demandeurs d'emploi d'être à la recherche effective d'un emploi pour percevoir leur allocation chômage, ça existe. On a des procédures de contrôle qui existent, donc on fait rien de nouveau. Simplement dans le discours, on dit et on renforce l'idée que les demandeurs d'emploi seraient des assistés, etc., qui auraient de la fraude, des gens qui profiteraient du système. C'est un fantasme. Tous les faits démontrent absolument
Hélène Ibanez, pardonnez-moi de vous couper, mais on est pressé, hélas, par le temps. On est quand même tous frappés par ce décalage qu'il y a, cette espèce de paradoxe, avec d'un côté 3 millions de chômeurs qui n'ont aucune activité, et de l'autre 300 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Comment on n'arrive pas à faire matcher, si j'ose dire, d'un côté ces offres d'emploi, l'autre ces demandeurs ? C'est quoi ? Quel est le problème ? C'est un problème de profil des candidats à l'emploi ?
Alors, il y a les deux sujets, mais c'est ce sujet qui mérite d'être traité. En fait, c'est pourquoi ces offres ne sont pas pourvues. Et à la limite, il n'y a pas d'analyse qualitative là-dessus.
Mais à Pôle emploi, vous vous dites quoi ? Les gens ne sont pas adaptés à l'emploi ou qui est proposé ? Ou surqualifiés, sous-qualifiés, je ne sais pas ?
Il y a trois critères, en fait, qui vont faire que des offres ne sont pas pourvues. C'est à la fois des offres qui sont dans une correspondance entre les territoires, si vous voulez, où on va avoir des offres d'emploi et pas les profils qui correspondent. Il y a évidemment la question des compétences qui sont recherchées à un moment donné par les recruteurs et on ne va pas avoir en face les compétences à mettre. Et puis, il y a une question qu'on pose assez peu, mais c'est la question des conditions de travail et des rémunérations. Et à un moment donné, oui, il y a des offres qui ne sont pas pourvues dans certains secteurs parce que ce qui interroge, ce sont les conditions de travail. Et je pense notamment au travail de nuit, au travail en horaire décalé, etc. Où, dans ces
est-ce qu'il y a dans la restauration, mais c'est le principe souvent de la restauration, de travailler parfois le week-end, de travailler en horaire décalé. Et effectivement, on revient du terrain souvent que une jeune population n'a plus envie de travailler dans ces conditions-là. Merci beaucoup, Madame Ibanez.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi. Est-ce que vous avez tout compris hier ? Est-ce que c'était clair pour vous les annonces de Emmanuel Macron sur le pass sanitaire ?
Il y avait quelques ambiguïtés,
nous sommes d'accord. Et bien c'est pourquoi Sophie Orange est avec nous et elle va pouvoir répondre à toutes les questions. Merci Anaïs Buissou également. Sauf si vous avez un mot à ajouter sur ce premier débat. Point. 12h50. Merci. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire.
Un rappel pour prolonger la durée du pass sanitaire, la troisième dose ouverte à une nouvelle tranche d'âge et puis le retour du masque à l'école partout. On revient sur le volet sanitaire de l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Bon, on a plein de questions depuis ce matin. Vous nous disiez même en arrivant à la rédaction, tout le monde vous a posé plein de questions. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, cette histoire de pass sanitaire conditionné à la troisième dose, on est d'accord pour l'instant en tout cas, ce n'est que pour les plus de 65 ans.
Ce n'est que pour les plus de 65 ans. Et cette date du 15 décembre ne veut pas dire que le 15 décembre, tous les passes sanitaires de toutes les personnes de plus de 65 ans vont se désactiver, vont s'autodétruire à 15h, le 15 décembre à minuit 00. En fait, ce qu'il faut comprendre, le président de la République parlait d'hier de 6 mois. Le porte-parole du gouvernement a rajouté ce matin 5 semaines pour que tout le monde ait le temps de se préparer. On va prendre un exemple très concret. Le 15 décembre, les personnes de plus de 65 ans qui ont été vaccinées le 11 mai Là, elles perdent leur passe sanitaire, ça n'a pas fait leur
la
dose de
rappel. La deuxième dose, le 11 mai.
La deuxième dose, le 11 mai. Si quelqu'un de plus de 65 ans n'a pas fait sa troisième dose au 15 décembre, son passe s'autodétruira. Donc, le 16 décembre, ce sera les personnes vaccinées deuxième dose le 12 mai, etc., etc. Donc, chaque jour, en fait, vont se rajouter des personnes. Mais il faut bien comprendre ça, que ceux qui nous écoutent se disent « j'ai pas fait ma dose de rappel alors que j'ai eu ma deuxième dose en septembre ». Leur passe ne s'arrêtera pas le 15 décembre.
Il reste 6 mois. Je rappelle quand même que Olivier Véran avait dit le 26 août que le passe sanitaire ne serait pas lié à la troisième dose. Ou que la troisième dose ne serait pas liée au passe sanitaire.
Et le 29 avril, le président Macron avait dit que le passe sanitaire ne permettrait pas de rentrer au restaurant. Et finalement, le passe sanitaire. Alors pourquoi il y a eu un changement de pied ? Peut-être deux raisons. La première, c'est que la situation épidémique de fin août, on était certes à une incidence supérieure, mais avec une dynamique à la baisse. Et aujourd'hui, l'incidence est assez basse, mais avec une dynamique à la hausse, premier point. Et deuxième point, en août, on avait encore assez peu de recul sur l'efficacité du vaccin au bout de 2, 3, 4, 5 mois. Israël nous a montré, aujourd'hui, on a une certitude scientifique, tous les scientifiques vous le diront, qu'au bout de 6 mois, l'efficacité du vaccin diminue. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait que les personnes à risque sont moins protégées 6 mois après leur deuxième dose et qu'elles courent un risque d'aller à l'hôpital si elles attrapent le Covid.
Cette troisième dose, la dose de rappel, elle sera aussi ouverte aux 50-64 ans à partir de début décembre.
Voilà, donc ça, là, exactement. Mais là, en revanche, le pass sanitaire, pour le moment, il n'y a pas de lien entre cette troisième dose et le pass sanitaire.
Oui, mais on imagine qu'il va devenir. Moi, je suis dans cette tranche-là.
Oui,
je me dis, je vais sans doute faire cette troisième dose parce qu'autrement, mon pass sanitaire, on va me le supprimer.
Alors après, il faut voir en fonction de l'évolution de l'épidémie et voir si cette dose de rappel chez les 50-64 ans démarre vite, pas vite, moyennement, pas moyennement. Tout ça va se décider janvier, février, mars. Mais évidemment, tout le monde y pense.
Et on va être prévenu ou il faut chercher dans ses papiers de quand date sa dernière dose ?
Pour les 65 ans et plus, ils reçoivent un SMS, ils reçoivent un courrier où il y a des messages sur les comptes à mini.fr. Et puis avec les courriers qu'ils reçoivent aussi pour la vaccination contre la grippe, il y a un rappel sur cette nécessité de dose de rappel de Covid. Donc ce sera sans doute la même chose pour les 50 ans et plus. Donc,
j'imagine que c'est constitutionnel, bien sûr, même si on n'avait pas pu confiner les gens les plus fragiles ou les plus âgés. On avait dit que c'était anticonstitutionnel à l'époque.
On a joint Jean-Philippe de Rosier justement, qui est constitutionnaliste à ce sujet. Écoutez sa réponse.
Visiblement, les autorités médicales ont souligné qu'à partir d'un certain âge, pour pouvoir continuer de bénéficier des effets du vaccin, il fallait une troisième dose. À partir du moment où l'on souscrit à la dynamique du pass sanitaire qui est d'encourager à la vaccination, on peut souscrire à cette raison qui fait que pour certaines personnes, une dose supplémentaire est nécessaire pour des raisons médicales. Moi, je n'y vois pas de discrimination.
A priori, pas de problème donc au niveau de la Constitution, nous dit Jean-Philippe de Rosier. Une autre toute petite question, Sophie. Est-ce que je peux faire la troisième dose si je ne rentre pas encore dans les catégories d'âge, mais que j'ai déjà six mois, ma deuxième dose date de six mois ?
C'est pas l'esprit.
Oui, mais ça peut arriver. Non,
les rendez-vous peuvent être ouverts, par exemple. Il y a certains centres, j'ai regardé ce matin, qui sont ouverts déjà pour le 2, 3, 4, 5 décembre. Vous pouvez prendre un rendez-vous si vous avez entre 50 et 64 ans. Mais si vous avez 38 ans et que je ne sais pour quelle raison vous avez fait vos doses assez tôt,
l'esprit, a priori, on va nous dire non.
Voilà. Après, vous pouvez peut-être prendre rendez-vous sur les plateformes, mais en arrivant dans le centre, peut-être qu'on va vous demander votre carte d'identité. Et à la fois, on a beaucoup de doses, donc on n'est pas à une dose près non plus, mais c'est quand même pas l'esprit.
Ça concerne combien de personnes au-dessus de 65 ans ?
À peu près 6 millions. Donc là, il y a
faut plus quand même une organisation pour 6 millions de personnes vaccinées. On ne vaccine pas 6 millions de personnes en 3 jours.
Hein. Non, mais la moitié sont déjà vaccinées. Donc il reste encore 3 millions, un peu plus de 3 millions à vacciner dans les 5 semaines.
Oui, mais la troisième dose, je parle de la troisième dose.
Dans les 5 semaines, il y a largement la logistique pour le faire.
Bon, écoutez.
Les enfants, juste un mot. Hier, le chef de l'État n'a pas du tout évoqué la vaccination des 5-12 ans, 5-11 ans. Il y a plein de parents qui se posent des questions quand on voit qu'en Israël, aux États-Unis, c'est fait. Rien n'est tranché chez nous ?
Rien n'est tranché, mais pour le moment, en tout cas, de ce qu'on comprend, ce n'est pas la priorité. On voit déjà que les parents ont du mal à accepter les tests salivaires à l'école. Donc franchement, la vaccination sur les enfants, ce n'est pas d'actualité. Et la situation épidémique ne l'oblige pas pour le moment.
Bon, Sophie Orange, je vous propose de rester avec les auditeurs, parce que vous voyez, les auditeurs vous posez plein de questions, et sur ce sujet, je pense que vous êtes la meilleure spécialiste pour répondre. Il est 12h59, une pause, le rappel des titres, Sophie Orange, les auditeurs, à tout de suite.
RTL Midi.
Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
La troisième dose obligatoire pour conserver son pass sanitaire pour les...